Marchand, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Emmanuel Bercot. Emmanuel Bercot, vous êtes cinéaste, vous êtes réalisatrice, vous êtes aussi actrice, scénariste. Vous vous souvenez du premier film que vous ayez vu quand vous étiez petite ?
Non, et c'est quelque chose qui m'attriste. Je cherche et je n'arrive pas à me souvenir, peut-être pas même du premier film, mais du premier choc de cinéma. Et j'ai interrogé mes parents qui sont incapables de me renseigner là-dessus, donc ça restera
enfoui. Il y avait une télé chez vous ?
Il y avait une télé, bien sûr. Il y avait une télé chez moi, mais j'habitais au-dessus d'un cinéma qui existe toujours, d'ailleurs le Grand Pavois. Et donc je pense que c'est dans ce cinéma-là que j'ai dû voir mon premier film sur grand écran, mais je ne sais plus lequel c'était.
Et il y avait des DVD chez vous ?
Ça n'existait pas. Vous me voyez plus jeune que je ne suis.
Vous êtes très jeune.
Non, pas du tout. Mais c'était peut-être le début des cassettes vidéo. Et encore, je suis pas sûre. Non, il y avait pas tout ça. Non, mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de fiction à la télévision. Donc, comme beaucoup d'enfants, j'ai regardé beaucoup de films cachés dans le couloir quand mes parents pensaient que je dormais.
Et la première fois que vous avez été au cinéma, vous en souvenez ?
Mais non. C'est ce que je vous dis, j'aimerais...
Ni du premier film à la télé, ni de la première fois au cinéma.
Absolument pas.
Vous avez déjà pleuré au cinéma ? Je dis pas en tant qu'actrice, en tant que spectatrice.
Bien sûr, je pleure très facilement, mais j'aime pleurer au cinéma et je pleure souvent au cinéma. C'est pour ça que j'y vais d'ailleurs.
Moi, je me souviens de votre premier film. Je ne parle pas des deux premiers courts-métrages. Je parle de votre premier film qui s'intitulait La Puce. Vous aviez quel âge ?
La Puce, c'est un film que j'ai fait dans le cadre en fait, de mes études à la FEMIS. Donc, c'était un film de fin d'études. C'est un moyen-métrage, d'ailleurs. Ce n'est pas un long-métrage. Et quand j'ai fait ce film, j'avais 29 ans.
Et pourquoi avez-vous choisi ce sujet et cette manière de filmer ?
Je pense que je suis intéressée par le corps, puisque vous parlez de la manière de filmer. Je peux dire que je viens de la danse, puisque c'est longtemps ce que j'ai voulu faire et que j'ai beaucoup dansé. Et que quand j'ai commencé à apprendre à faire du cinéma et à en faire, mon passé de danseuse, je trouve à jouer un rôle dans le sens où j'ai tout de suite été, il me semble, attentive à la façon dont je mettais les corps dans l'espace et puis aussi à la façon dont je filmais les corps, dont je les morcelais dans les cadres. Donc le côté très épidermique de ce film, La Puce, je crois qu'il vient vraiment de mon goût pour la danse et de mon goût pour le corps et le corps féminin en particulier. Et le sujet du film, c'est le dépucelage d'une jeune fille. En fait, ce sujet m'est venu par l'actrice qui joue ce rôle, Isilde Lebesco. J'avais déjà fait un court-métrage avec elle, donc mon premier court-métrage. Et puis, quand j'étais en train de mixer ce court-métrage, il y avait ce visage d'Isilde en gros plan sur l'écran de la salle de mixage. Et l'idée de Enfin, le sujet de ce film m'est venu comme ça, comme descendu du ciel, enfin comme une évidence par rapport à ce que m'inspirait le visage des îles.
Je me souviens d'une maison au bord de la mer, je me souviens d'une plage immense, je me souviens d'un corps d'un monsieur assez âgé, en tout cas dans le regard de cette jeune fille, et de cette attirance de cette jeune femme vers ce monsieur très âgé.
Oui. C'est très âgé.
Pour elle ?
Oui, pour elle, évidemment. Disons qu'il doit avoir facilement 20 ans de plus qu'elle. le film met en scène une adolescente à l'âge où on est travaillé par les questions de la sexualité et le désir. Et on sent que cette fille est un peu marginale, un peu solitaire. Et il se trouve qu'elle elle rencontre sur son lieu de vacances en Normandie, sur la plage, où en tout cas il loge dans le même hôtel qu'elle, cet homme plus âgé qui s'intéresse à elle. Donc elle le choisit finalement pour découvrir la sexualité, parce qu'on sent chez elle une singularité qui fait qu'elle ne s'intéresse pas tellement aux garçons de son âge, et peut-être qu'elle a envie d'être initiée d'une façon, disons, plus complexe.
Alors déjà, il y avait une signature Emmanuel Berco dans la manière de tenir la caméra, de mettre en scène les corps, l'étreinte des corps, le côté un peu vénéneux, à la fois attirant, séduction, mais aussi domination, qu'on va retrouver très jeune toujours dans Backstage, où là, vous avez décidé de prendre un sujet à contre-courant de toute la cinématographie française, puisque vous allez explorer les coulisses de l'inconscient dans ce qu'on ne nomme jamais.
Oui, mais finalement, si je peux tirer un fil rouge entre mes premiers films, entre La Puce et le film que j'ai fait avant Backstage, qui s'appelait Clément, et qui était là l'histoire d'une passion amoureuse d'une femme de 30 ans pour un adolescent, puis Backstage, qui est la passion folle d'une fan pour une chanteuse. Pour moi, tous ces films racontent des histoires d'amour impossibles, finalement. Enfin, alors, dans Backstage, c'est vrai que le phénomène du fan, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément intriguée, peut-être parce que j'en ai jamais été une moi-même, et que du coup, j'avais envie de percer un peu ce mystère qui fait qu'on vit complètement à travers l'autre. Mais ça reste pour moi de l'ordre de la passion presque amoureuse. Donc c'est finalement dans la lignée de ce que j'avais commencé à faire avant ce film-là.
Qu'est-ce qu'un corps féminin aujourd'hui?
Moi déjà, j'aime les femmes. Je me retourne toujours plus facilement sur une femme que sur un homme dans la rue ou dans une soirée. Je vais beaucoup plus regarder les femmes que les hommes. J'ai jamais eu d'esprit de rivalité avec les femmes. J'aime vraiment les femmes et je les trouve belles. Et ça passe par leur visage, évidemment, par leur charme et par leur corps. Parce que le corps féminin, en fait, donne envie de... Enfin, moi, en tout cas, il me donne envie de le mettre en image. Donc, éventuellement de le photographier si j'avais fait de la photo, mais de le filmer en mouvement au cinéma. Et pour moi, c'est le principal vecteur, en fait, du jeu de l'acteur. Le corps... Alors, on dit qu'en France, les acteurs jouent pas tellement avec leur corps en comparaison des acteurs anglo-saxons, par exemple, ce qui est vrai. Mais moi, c'est vrai que je suis toujours attirée par des acteurs qui ont une présence physique assez forte et qui font passer les choses par leur corps, parce que, une fois de plus, pour moi, la mise en scène au cinéma se rapproche quand même beaucoup de la chorégraphie.
Alors, comment on peut s'approcher d'un corps féminin en le respectant, car dans vos films, là, je parle des premiers, je parle de La Puce, de Clément et de Backstage, vous le faites aussi par un procédé cinématographique que vous utilisez à plusieurs reprises. Il y a comme une sorte de cartographie des corps. Vous approchez des corps, vous utilisez différents tamis de lumière, et en même temps, c'est une éloge du corps féminin qui est aussi une éloge de l'intériorité et du respect de la femme, tout en prenant des sujets très difficiles, très compliqués.
Oui, les sujets sont compliqués, mais la façon...
Sur la crête du désir.
Complètement. Mais la façon dont je traite le corps de la femme au cinéma, ou en tout cas ce que j'essaie de faire, c'est de le filmer avec respect et avec bienveillance, donc de mettre en valeur sa beauté. J'ai jamais été intéressée par une vision crue du corps comme une matière organique un peu chirurgicale. Non, ce qui m'intéresse, c'est finalement l'émotion qui peut simplement passer dans le plan d'une partie du corps, dans la peau de quelqu'un, dans des morceaux de son anatomie. C'est l'émotion doit passer par là aussi. Donc c'est aussi essayer de porter un regard voilà, bienveillant sur les femmes que je filme et qui font don de leur corps.
Pourquoi avez-vous abandonné la danse? Car quand vous parlez aussi avec votre corps.
Oui, je sais, c'est terrible.
Vous faites beaucoup de gestes, comme si vous dansiez. Et quand on voit vos films aussi, d'ailleurs, il y a de la musique tout le temps, les acteurs, les actrices dansent tout le temps. Les gens sont toujours en mouvement.
Le mouvement est important.
Il n'y a jamais d'immobilité dans vos films.
Il y en a parfois, mais même quand il y en a, j'essaie d'être très attentive justement aux gestes, aux attitudes physiques. C'est le cinéma pour moi passe vraiment par là et puis par une énergie du corps. Moi, j'ai abandonné la danse parce que je pense que je n'avais pas la rigueur nécessaire pour atteindre les sommets. Et que surtout, à travers la danse, j'ai été amenée à découvrir le théâtre. Et que là, ça a été une révélation pour moi. Et que j'ai abandonné la danse du jour au lendemain. Mais je devais avoir 19 ans. Et plutôt que de continuer à faire un peu de danse comme ça, j'ai préféré faire le deuil de ça et arrêter complètement. Mais je reste toujours très empreinte quand même de mes années de danse et de la passion que j'ai eue pour ça.
On le voit bien à l'intérieur de vos gestes de réalisatrice, que vous êtes toujours hantée par cette chorégraphie des corps et comment un corps féminin peut s'approcher d'un corps masculin. Alors que d'habitude, dans le cinéma français, c'est plutôt l'inverse. C'est le corps masculin qui s'approche du corps féminin. Vous, vous faites le contraire. Et je me demandais aussi, en revoyant certains de vos films, s'il n'y avait pas l'expérience de l'actrice aussi. Et là, je voudrais parler d'un très beau film, celui que vous avez tourné avec Benoît Jacquot. À tout de suite, ça s'appelait.
Ouais, à tout de suite. J'ai un petit rôle dans ce film, vraiment tout petit, mais j'étais heureuse d'avoir la chance de travailler avec Benoît Jacquot. En plus, dans un film où Isilde tenait le rôle principal, donc c'était comme un clin d'œil, enfin le prolongement d'un lien qui était... qui était touchant pour moi, mais forcément, le fait d'être actrice et d'avoir, d'une part, fait du théâtre, où je trouve le corps a quand même... C'est pour ça que je reste, en tant qu'actrice en tout cas, très attachée au théâtre, parce que je trouve que sur le plateau, le corps de l'acteur a vraiment tout l'espace pour déployer son énergie, plus qu'au cinéma. Mais forcément, l'expérience de l'actrice, elle infuse la façon de diriger les acteurs et de mettre leur corps en scène. C'est évident. Mais puisque vous parlez d'à tout de suite, justement, Benoît Jacquot n'est pas quelqu'un qui... C'est un cinéaste qui est davantage un cinéaste des émotions comme ça... souterraine qu'un cinéaste du corps. C'est un cinéaste, je pense, beaucoup plus cérébral que moi. Moi, je fais aussi avec ce que je suis, donc je suis pas quelqu'un de cérébral. Donc c'est vrai que mon attention se porte plus facilement sur les choses matérielles, le corps, les choses physiques. Benoît Jacquot est lui quelqu'un de plus attentif à la dimension psychologique de ses personnages.
Avez-vous l'impression, Emmanuel Berco, de faire partie d'une famille? Parce que vous parlez d'Isilde de Lebesco, avec qui vous avez tourné votre premier film, La Puce, que vous avez retrouvé dans le film de Benoît Jacquot. Vous venez d'évoquer Maïwenn, dont le prochain film va bientôt sortir, et vous interprétez le rôle principal. Vous avez interprété aussi un rôle très important dans le film de Maïwenn, dont vous avez été aussi la scénariste dans Police. On a l'impression que ça forme un clan. Or, on dit souvent, le cinéma n'est pas une famille.
Non, moi, je me sens pas du tout en famille. J'ai une histoire presque familiale avec la famille, enfin, le clan Lebesco, puisque c'est vrai que c'est que ce soit Isild ou Maïwenn, c'est des gens qui ont énormément compté dans mon trajet, parce que Isild, parce que j'ai fait, je crois, mes 4 premiers films avec elle, et qu'elle a été pour moi une source d'inspiration vraiment puissante, en tout cas dans mes débuts au cinéma. Et puis Maïwenn, parce qu'elle a quand même influencé mon parcours en m'accordant cette place auprès d'elle dans Police, et puis maintenant dans Mon Roi, où ce que j'ai fait avec elle ont été des tournants pour moi. Mais je me sens pas du tout appartenir à une famille. En fait, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que on a très peu l'occasion de côtoyer des réalisateurs. Puisque
on est seul quand on travaille.
De toute façon, on est seul quand on travaille, mais on rencontre très peu les autres réalisateurs. Donc moi, je connais assez peu de réalisateurs. J'ai assez peu d'amis réalisateurs. Et la famille, ma famille, pour moi, finalement, c'est mon équipe. C'est les gens qui font les films avec moi. Mais je ne me sens pas appartenir à un courant ou à un clan de cinéma. Peut-être parce que je suis tombée dans une génération où ça n'avait plus cours, ce qui existait davantage au moment de la nouvelle vague, et ce qui, je trouve, réexiste aujourd'hui à travers cette nouvelle génération de trentenaires qui font des films où ils interagissent, où ils jouent dans les films des uns, et puis après ce sont les autres qui jouent. Voilà, je trouve qu'il y a une espèce de famille qui a émergé là récemment dans le cinéma français, donc peut-être que cet esprit de clan revient.
Nous allons écouter quelqu'un qui fait peut-être partie de votre famille cinématographique, qui est beaucoup plus vieux que vous, mais je crois que vous l'admirez comme moi. Il s'appelle Ken Loach. C'était au micro de Pascal Clark le 1er janvier 2002 à propos de son film Sweet 16.
Well, sweet is an ironic use of the word.
L'expression est un peu ironique. Il s'agit d'un âge tendre, peut-être, mais c'est ironique en ce qui concerne le film.
I mean, it's a saying in English, you know, sweet 16 and never been kissed, really.
C'est une expression anglaise. Elle a 16 ans, elle sait l'âge tendre, mais elle n'a jamais été embrassée. C'est une chose qu'on dit comme ça.
Neither of which apply to Liam.
Et en fait, rien du tout ne s'applique à Liam, le héros du film.
God, when I was 16,
quand j'avais 16 ans,
I think we were much younger than. People are 16 now.
Nous étions beaucoup plus jeunes, en fait, que les gens de 16 ans aujourd'hui.
I think I was quite a child when I was 16.
J'étais un gosse quand j'avais 16 ans.
But the people I see who are 16 now are much more mature and more adult and are thrust into the adult world.
Les gens qui ont 16 ans aujourd'hui, ils sont beaucoup plus adultes, ils doivent être beaucoup plus matures et ils sont poussés dans le monde des adultes de manière beaucoup plus rapide.
I think in the way it's happening is probably a bad thing.
Vu la façon dont ça se passe, c'est plutôt négatif.
Because the childhood is being robbed, really, for many, and particularly for people like the kids in the film.
Ces jeunes gens perdent leur enfance, surtout les personnages du film, par exemple.
Nous venons d'entendre donc Ken Loach à propos de ce film qui, je crois, peut-être a été déterminant dans l'approche que vous avez eue durant le travail qui a précédé donc votre dernier film, La tête haute.
Oui, mais Sweet 16 est un film que j'avais déjà adoré à sa sortie et que j'ai évidemment beaucoup revu en préparant La tête haute, et j'ai même, enfin, je l'ai revu très précisément. J'ai étudié en détail son scénario. Ken Loach est de toute façon une référence de toujours pour moi, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait ce film qui est pour moi une perfection, Sweet 16, ce que moi j'appelle, je considère comme un chef-d'œuvre, a forcément eu des échos avec le sujet sur lequel je travaillais. Ken Loach, je l'admire parce que c'est un grand cinéaste et que sur pourtant des films qui ont l'air très simples et qui très simples et très naturalistes, très réalistes sont en fait des à la fois des scénarios, une mise en scène, une mise en lumière qui sont extrêmement élaborés mais qui ne se voient pas. Pour moi, c'est sa grande force, mais c'est surtout que c'est un cinéaste militant, engagé et humaniste, et que je pense qu'il fait du cinéma pour des bonnes raisons. Que pour lui, il est plus important de témoigner et de porter un regard sur la société dans laquelle il vit que d'aller au Festival de Cannes. Donc en ça...
Et pourtant, vous avez fait l'ouverture du dernier Festival de Cannes.
C'est génial d'y aller. Mais il est un modèle pour moi dans le sens où je le pense totalement sincère dans son geste de cinéma. Il le fait vraiment pour parler du monde et c'est pas un cinéaste égocentrique.
Nous allons écouter un autre cinéaste qui fait peut-être partie de votre famille. Alors ça serait peut-être un grand-père ou un arrière-grand-père. En tout cas, j'ai pensé à lui après avoir vu La Tête Haute. Il s'agit de François Truffaut qui va parler de son film Les 400 coups et de l'évolution du cinéma. C'était le 9 mai 1959 au micro de François Chalet.
Si la nouvelle école existe, en tout cas je n'en suis pas le chef, mais un des représentants. Et je pense même qu'elle est, que le lien entre ceux qui la composent est très extérieur. Il concerne peut-être la façon d'envisager le tournage des films, mais il n'est absolument pas esthétique. Je veux dire par là que une dizaine de films réalisés dans la contrainte, comme le sont la plupart des films français, ou comme l'étaient la plupart des films français, présentent beaucoup de points communs, alors qu'une dizaine de films réalisés dans la liberté, ce qui est notre cas, se trouvent extrêmement différents les uns des autres. Et ce qui frappe quand on regarde un tableau des jeunes cinéastes et de leurs films, c'est les énormes différences de conception et d'esprit et de tour de pensée entre ces différents films.
On a dit aussi que Les 400 coups, c'était un peu votre histoire personnelle.
C'est un film qui est partiellement autobiographique et en tout cas ce qui n'est pas autobiographique est biographique. Autrement dit, rien n'est... Tout est puisé dans la réalité, rien n'est inventé.
Est-ce que vous pensez que vous êtes au-dessus ou au-dessous de la réalité? Que les choses sont plus graves que vous l'avez dit de votre film, Les 400 coups est un film violent, est un film dur, qui dénonce beaucoup de choses.
Je crois qu'il aurait été beaucoup plus violent si je l'avais tourné plus jeune, et qu'il serait sans doute plus serein si j'avais attendu davantage, mais je crois qu'il n'est jamais outrancier.
Alors je vais vous poser la même question que François Chalet. Dans votre dernier film, La Tête Haute, est-ce que vous pensez que le film dépasse ou est en dessous de la réalité?
Je pense que le film reflète une réalité, parce qu'il a été beaucoup montré, évidemment, dans les sphères des travailleurs de la justice des mineurs, et que vraiment quasiment à l'unanimité, ils m'ont tous exprimé à quel point ça reflétait leur quotidien. Et donc,
alors pour celles et ceux qui n'auraient pas vu encore votre film, il faut préciser qu'il s'agit de l'itinéraire d'un adolescent qui va se confronter à la violence sociale, qui va être déféré devant une juge, interprétée magnifiquement par Catherine Deneuve, et dont vous allez suivre le parcours. Mais si j'ai bien compris, Emmanuel Berco, avant de commencer le tournage, vous avez fait un long travail documentaire.
Ah oui, j'ai fait un très très long travail documentaire, parce que quand on s'attaque à ce type d'institution, on ne peut pas être approximatif ou invraisemblable. Il faut... Et puis moi, en plus, je suis obsédée par la vraisemblance au cinéma et par la justesse. Donc j'avais envie d'une matière très documentaire pour ce film, qui est un film totalement de fiction, que je n'ai pas du tout tourné dans un style documentaire, mais j'avais besoin d'une matière très documentaire et j'ai donc je me suis donc imprégnée de cet univers de la justice des mineurs et de tout le travail éducatif qui est fait autour des mineurs délinquants. D'une part, j'ai découvert un univers qui m'a totalement passionnée et qui a surtout aussi forcé, enfin déclenché chez moi un immense respect et beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent dans ce domaine. Il y a évidemment des cas beaucoup plus terribles que celui que je mets en scène dans mon film. J'ai vu des familles, j'ai vu des enfants, j'ai vu des adolescents dans des situations qui m'ont bouleversée, avec des histoires terribles. Moi, j'ai voulu choisir un personnage qui soit le plus emblématique possible, donc qui ne soit pas dans des excès, parce que je ne voulais pas stigmatiser justement la figure du délinquant. Donc j'ai essayé d'en faire un personnage le plus universel possible, donc avec sans archétype. Donc il y a effectivement, ça reflète une grande part de la réalité, mais il y a bien pire que ça.
Alors le scénario s'organise selon les saisons. Il va, cet adolescent, traverser ces différentes saisons, saison de l'âme, saison du cœur, saison des épreuves. Et il va trouver à l'intérieur de lui-même ses propres forces, alors qu'il n'est rien, il se déconsidère, il se déclassifie en permanence. Et c'est ça, notamment, qui est très, je trouve, très bouleversant dans votre film, c'est comment vous, cinéaste, vous arrivez à nous faire partager l'inquiétude, l'impossibilité d'exister pleinement quand on se retrouve désigné socialement. Et vous n'avez pas pris un acteur professionnel pour interpréter cet adolescent.
Non, comme souvent quand on écrit un film autour d'un personnage adolescent, on a envie de découvrir et de révéler quelqu'un, d'inventer quelqu'un à travers un rôle. Donc c'est vrai, je tenais absolument à faire un casting sauvage et trouver quelqu'un qui n'avait jamais été devant une caméra pour essayer de capter toujours cette vérité à la recherche de laquelle je suis. Ce qui ne veut pas dire que le garçon que j'ai choisi est délinquant ou un parcours difficile, ça n'est pas du tout le cas. Enfin, c'est vrai qu'il traverse plusieurs saisons, mais il traverse aussi plusieurs années, puisque le film s'ouvre, il a 6 ans, et quand le film se referme, il a 18 ans. Et je pense que ce qui permet justement au spectateur d'être en empathie avec lui et de ressentir ce qui traverse intérieurement, c'est qu'on voit cet enfant de 6 ans abandonné par sa mère, être abandonné par sa mère dans le bureau de la juge quand il a 6 ans. Donc on assiste finalement à sa blessure originelle, à quoi s'ajoute effectivement la précarité sociale du milieu dans lequel il est né, du milieu dans lequel il évolue, bien sûr. Mais je pense que ça permet aussi au spectateur de mieux le suivre dans ces allers-retours incessants, parce que c'est vrai que c'est un travail de très longue haleine qui est fait avec ces jeunes, qu'ils font souvent 3 pas en avant, puis 10 pas en arrière, et que c'est pour ça que j'ai tenu à montrer le travail qui est fait sur tant d'années, parce que rien n'est jamais gagné, et que parfois on n'y arrive pas, et parfois, au bout de 5, 6, 7 ans, il y a un déclic qui se produit à la faveur d'un événement qui peut paraître insignifiant ou d'une phrase prononcée par l'entourage éducatif et qui tout d'un coup leur permet en tout cas de voir un horizon et de retrouver l'estime d'eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'à l'unanimité, tous les travailleurs sociaux, éducatifs m'ont dit que ces jeunes, leur vulnérabilité, elle vient aussi du fait qu'ils ne s'aiment pas parce qu'ils n'ont pas été aimés ou protégés comme il le fallait.
Nous allons écouter la voix de Luc Dardenne à propos du rapport entre la spiritualité et le cinéma.
Bon, il ne faut pas donner trop de missions à l'art, mais je pense quand même qu'un film a un rapport avec l'éducation à la spiritualité, à l'idée d'humanité. Je pense que c'est un rapport, oui. Je pense que la responsabilité des artistes, sans leur donner de charges excessives, je pense quand même qu'elle est là, oui. Je pense qu'on fait partie des personnes, des gens qui après la disparition des religions, en tous les cas, malheureusement pas vraiment, il y a encore des religions qui reviennent avec force, mais je dirais, après le fait que Dieu n'ait plus été la référence pour la conduite de la vie collective, je pense que l'art a un rôle, mais je ne vais pas le définir comme une religion, c'est pas ça, mais je pense que l'idée d'homme, l'idée d'humanité qui se construit, qui permet d'avancer, de bouger, de voir, je pense que l'art est là pour la présenter d'une certaine façon, pour la révéler.
Êtes-vous une petite fille des frères Dardenne ? On y pense à la sortie de votre film.
Ah oui, bien sûr, les frères Dardenne sont parmi les cinéastes qui comptent pour moi et dont aussi j'étudie les films, les scénarios, parce que ce sont des modèles. Dans la lignée, en tout cas, du cinéma que j'aime, comme celui de Ken Loach dont on parlait tout à l'heure. Parce que je pense que ce sont aussi des humanistes, mais on le sent très bien dans l'interview, enfin l'extrait d'interview que vous venez de passer. Ils ne sont pas dans le souci du divertissement, ils sont dans le souci d'un geste spirituel, oui, quand ils font leur film.
Et vous, avez-vous l'ambition aussi de faire avec ce film une sorte de d'acte de citoyenneté, une sorte de cœur palpitant pour qu'on se pose la question quand on n'y est pas confronté soi-même à toute cette jeunesse tourmentée. Est-ce que le cinéma, c'est pour vous une question citoyenne?
Mais ça ne l'était pas tant que ça, mais ça l'est devenu.
Je sais que votre film, vous l'avez montré à beaucoup justement d'adolescents qui se trouvent dans cette situation.
Oui. C'est la première fois que je fais un film qui est en résonance comme ça avec la société qui est la nôtre et c'est pas un film militant, mais c'est quand même un film social et politique. Ça, oui, je l'admets. Et ça me fait plaisir parce que, enfin, moi, je sais que parfois je suis un peu mal à l'aise avec le fait de faire un métier qui ne porte pas à faire des choses pour les autres. Et que pour la première fois avec ce film, j'ai l'impression d'avoir quand même rendu un service, d'avoir aidé déjà la reconnaissance des gens qui travaillent dans le milieu de la justice des mineurs à la PJJ est telle envers le film que je me dis que c'est un acte citoyen d'avoir peut-être mis la lumière sur ces métiers qui sont très très méconnus et de simplement leur offrir une reconnaissance qu'ils n'ont jamais. Et aussi d'ouvrir la conscience des gens qui ont eu envie d'aller voir ce film, d'une part sur la richesse du travail social en France, et aussi peut-être changer le regard sur justement ces mineurs délinquants qui sont encore malgré tout que des enfants et qui font peur et pour lesquels on n'a pas beaucoup de tolérance. Et donc quand un spectateur me dit en sortant qu'il ne regardera plus jamais ces gamins qui traînent dans la rue de la même manière, bon, bah, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait, oui, un petit acte citoyen et ça fait du bien.
Dans votre film La tête haute, il y a donc une juge, on va revenir sur Catherine Deneuve qui interprète ce rôle. Et puis, il y a aussi un éducateur, interprété par Benoît Magimel. Et là aussi, et je pense que ça contribue beaucoup à la force de votre scénario, je souligne que vous êtes à la fois scénariste, réalisatrice, actrice. Et je pense que les trois se trouvent conjugués dans l'écriture et le rythme de ce film. Vous ne versez jamais dans le manichéisme. La juge, elle a des doutes. Elle se trompe, elle le dit. L'éducateur, il a des faillites. Il fait des erreurs énormes, il fait des choses qui sont transgressives alors qu'il est normalement censé représenter et incarner la loi. Est-ce que ce que vous racontez dans ce film, c'est le reflet de ce que vous avez vécu dans l'expérience documentaire qui a précédé?
Bien sûr que c'est le reflet de ce que j'ai vu et c'est aussi ce que j'avais envie de raconter. Il se trouve que ma confrontation au réel quand je me suis immergée dans les bureaux des juges auprès des éducateurs a confirmé que personne n'a les clés, personne ne sait vraiment où est la solution et tout le monde cherche et tâtonne autour de ces jeunes et évidemment des erreurs sont faites. Mais ce qui est beau, c'est que c'est des humains qui essayent de s'entraider tout simplement avec leur propre blessure aussi, parce qu'il faut savoir que souvent les gens qui travaillent dans ce domaine et notamment les juges des enfants sont très très souvent des personnes qui ont eu des enfances difficiles et donc qui ont été amenées à faire ces métiers qui sont quand même très très durs aussi pour des raisons profondes et qui font donc avec ce qu'ils sont et aussi leur vulnérabilité. Alors ils représentent la loi, mais ils la font de manière très très humaine et je tenais à ce que cette juge reste très humaine. Et surtout à ce que, oui, il n'y ait pas d'un côté les faibles et puis de l'autre côté les forts.
Nous allons écouter la voix de Catherine Deneuve à propos des films réalistes.
Ah ouais. Quand on fait des films familiaux, moi j'en ai vu, j'en ai entendu, mais c'est absolument navrant. On se rend compte que les films réalistes, c'est pas du tout la réalité, c'est pas ça du tout. Non mais parce que c'est du bavardage, parce que le son n'est pas formidable, parce qu'on n'arrête pas de se répéter, parce que tout paraît caricatural, je trouve. Alors que dans un film, c'est d'une seule prise, on garde ce qu'il y a de mieux, c'est quand même souvent des choses écrites quand même, donc c'est quand même mieux. Ça je filme pas, j'aime pas ça du tout. Autant j'aime les photos, autant je déteste. Pour moi, ce qui bouge, ce qui est filmé, tout ça, c'est le cinéma, c'est vraiment de l'autre côté, c'est à côté. Je ne supporte pas quand il y a des gens qui sont là avec des petites caméras vidéo en train d'essayer de filmer. C'est... Oh, mais non, je trouve que ça démystifie tout. Parce que les professionnels qui se servent de caméras vidéo, c'est pas du tout le même usage. Ils essayent de cadrer, il y a des choses, il y a quand même une, vous voyez, il y a quand même un regard de quelqu'un qui c'est pas simplement essayer d'enregistrer, de fixer sur un support étrange et virtuel maintenant, si vous voulez, des choses de la vie. Ça ne transmet pas la vie en plus. Je trouve que quand on essaye de saisir des choses de la vie, ça ne transmet pas la vie. C'est très très rare.
Elle n'a pas tort, Catherine Deneuve. Et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire et ce que vous avez évité de faire, Emmanuel Berco. Et en même temps, le rapport à Catherine Deneuve, dans votre travail cinématographique, il est quand même, je pense, très important, parce que vous aviez fait cet avant-dernier film qui s'intitulait « Elle s'en va », qui est vraiment un film super étrange dans le paysage cinématographique français, parce que c'est à la fois un conte, c'est à la fois un vagabondage, c'est à la fois de la poésie, c'est à la fois un hommage à une grande actrice, mais c'est aussi un rapport entre un enfant et une femme qui vieillit. Qu'est-ce que ça veut dire vieillir quand on s'appelle Catherine Deneuve ? Et là, je pense que c'est pas un hasard si vous reprenez Catherine Deneuve. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une actrice pour vous, sachant que vous aussi, vous êtes une actrice jeune. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Deneuve déjà dans Elle s'en va ?
Mais une actrice, pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est le cas avec Catherine, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire 2 films d'affilée avec elle et que je pourrais encore en faire 10, 20, c'est qu'elle elle m'inspire. Mais c'est pas parce qu'elle est actrice qu'elle m'inspire, c'est elle qui m'inspire. Je pourrais très bien vous choisir vous ou quelqu'un que je trouve dans la rue. Je me fiche en fait qu'elle soit actrice. C'est la personne m'intéresse toujours beaucoup plus justement que l'actrice. Donc c'est la personne de Catherine qui me touche depuis, alors que je suis comme beaucoup de gens depuis que je suis petite. Et le fait d'avoir la chance de la rencontrer avant de faire un film avec elle m'a permis de la découvrir encore mieux et d'avoir eu envie de la filmer justement pas comme une actrice mais comme la personne qu'elle est et qui est parfois très loin de l'image qu'une partie du public a d'elle. Et le sens de ce film, Elle s'en va, c'était vraiment de... C'est comme une déclaration d'amour, en fait, pour moi, ce film, à Catherine Deneuve. C'est de la filmer au plus près de ce qu'elle est, dans une histoire de fiction et un personnage qui n'a rien à voir avec elle, mais quand même dans ma façon de la regarder et de la faire vivre dans ce film, je cherchais à capter quelque chose de ce qu'elle est, elle, Catherine, et pas l'icône... la star du cinéma français. Donc, le seul sens de ce film pour moi, c'était Catherine Deneuve. Je ne l'aurais pas fait sans elle. Enfin, ce film n'avait pas de sens sans elle. Ce film, je l'ai vraiment fait pour elle. Après, dans La tête haute, c'est différent. Parce que justement, je lui ai proposé de faire quelque chose de très très loin de ce qu'on avait fait ensemble dans Elle s'en va. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pu encore... Enfin, elle m'a encore surprise. J'ai encore découvert des choses d'elle que je ne connaissais pas. Alors, je l'avais filmée qu'une fois, mais j'ai quand même vu sur les 120 films qu'elle a fait, j'en ai quand même vu beaucoup. Donc, on a l'impression de connaître déjà beaucoup de choses d'elle et qu'on va revoir des choses qu'on connaît déjà. Mais dans ce rôle de juge, elle m'a à nouveau fascinée parce qu'elle a donné, offert, enfin, fait surgir encore des choses qui sont surprenantes.
Tous vos films, Emmanuel Berco, malgré votre jeune âge, parle, de manière distanciée ou pas, de l'enfance. Dans le premier, La Puce, c'était le tout début de l'apprentissage de l'âge adulte, avec ce dépucelage. Dans le dernier, Tête haute, il s'agit d'un tout petit enfant qui va devenir un adolescent et qui va être obligé de devenir un adulte. Comment va-t-il s'y faire alors qu'on ne l'accueille pas, alors qu'on ne veut pas de lui ? Ça sera la promesse d'un enfant qui va délier sa personnalité. Dans Elle s'en va, vous mettez en scène Catherine Deneuve avec un enfant. Pourquoi cette obsession de l'enfance ?
Si je le savais, j'ai pas trouvé la réponse encore parce qu'on me pose à juste titre souvent la question. Mais je pense que j'ai une inclinaison naturelle pour le monde de l'enfance, quand je suis, je sais pas, dans une réunion avec plein de gens, je me retrouve toujours presque systématiquement à, dans le coin des enfants. J'aime les observer, j'aime leur parler, j'aime leur poser des questions, j'aime connaître ce qu'ils ont dans la tête, j'aime jouer avec eux. Donc, je pense que c'est un âge qui me permet de projeter des choses peut-être plus profondes que l'âge adulte. Et que c'est vrai que c'est indéniable, j'ai jamais fait un film où il n'y ait pas un enfant ou un adolescent, si ce n'est en personnage central, en tout cas dans un personnage qui compte. Donc, mais l'enfance, enfin, est quelque chose qui me... La protection de l'enfance en particulier est quelque chose qui me préoccupe beaucoup et depuis toujours. Et puis, cinématographiquement, j'aime filmer des visages comme ça en transformation, en devenir.
Ce film, ce dernier film, vous a emmené loin, vous a projeté peut-être à des endroits auxquels vous ne songiez pas, aller parler avec des mineurs, soi-disant délinquants, et qui le seraient peut-être pour toujours, mais non, c'est une étape dans la vie pour certains d'entre eux, vous a emmené dans des débats avec des spécialistes de la justice. Est-ce que votre cinématographie va s'en trouver modifiée? Est-ce que le registre que vous avez eu, qui est un cinéma quand même engagé, pas au sens de la cause politique, mais tout à l'heure vous disiez que La Tête Haute était aussi un film politique, mais est-ce que ça va pas finalement déterminer un nouveau tournant pour faire des films plus citoyens?
Ah si, c'est sûr. C'est sûr. Je pense d'une part que je suis plus faite pour ça que pour autre chose et que j'y retrouve plus mes billes, si je puis dire. Et puis surtout, ça a été tellement fort pour moi, très puissant et aussi très gratifiant quand même, il faut bien le dire, d'être comme ça accueillie et admise au sein du monde de la justice des mineurs. Moi, je me suis sentie très honorée d'avoir été invitée aux assises de la protection de l'enfance, d'avoir eu l'occasion de parler plusieurs fois avec la ministre de la Justice. Et puis surtout, ça me passionne. Donc je m'aperçois qu'en fait, il faut que je fasse des films sur des sujets qui me passionnent. Et j'ai l'impression que les sujets qui me passionnent vont être de plus en plus des sujets plus citoyens et solliciter plus d'engagement de ma part dans les sujets de fiction.
Ben merci beaucoup Emmanuel Berco. Je rappelle que la plupart de vos films sont en DVD et que La Tête Haute, c'est encore en salle. Il faut en profiter. Et qu'on vous verra très prochainement dans le dernier film de Mai Wen qui s'intitule Mon Roi. Vous êtes la reine donc. Merci Emmanuel Berco, merci aussi à Éric Boissé, à Didier Lagarde, à Anne Kobilac, à Corinne Amar, Julien Rosa et Élodie Royer. Vous écoutez France Culture, bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture.